Mai vreau, mai, mai.
Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. J'annonçais hier la visite d'un homme pas comme les autres et comme je tiens toujours mes promesses, une des raisons pour lesquelles je ne me suis jamais lancé en politique, il est là, à 1m50 de moi, distance réglementaire, en dépit du titre du 8e film qu'il signe comme réalisateur, Serre-moi fort. Serre-moi fort, un titre paradoxal hein, pour un homme aussi insaisissable que lui et sachant que le film ne raconte pas loin de là la relation passionnelle entre un joint et un plombier. Je me suis toujours imaginez Mathieu Amalric, puisque c'est de lui qu'il s'agit, comme un feu follet, un électron libre agissant sa vie au lieu de la subir, se promenant allègrement dans les champs verdoyants de la comédie, choisissant de réaliser son vrai métier, si on l'en croit, ou de jouer au gré de ses désirs et des circonstances, ce qui lui permet de se retrouver aussi bien chez Desplechin que chez les frères Larieux, chez Spielberg, que chez David Cronenberg, chez Alain René, que dans un James Bond, et je m'en tiens là, on pourrait y passer l'heure. Jouer, c'est bien, mais il faut bien souffler. Et comme chacun sait, souffler n'est pas jouer. Et quand Mathieu ne joue pas, sa façon à lui de souffler, c'est de réaliser, comme il le prouve encore aujourd'hui, et pour la 8e fois, pour un film, avec un film intense, intime et mélodramatique qu'il serait excessif de qualifier de comédie, 10 ans après le très remarqué Tourné. Changement de cap, changement de registre, une fois de plus, un feu follet, je vous dis. Et Popopop, rebaptisé pour la circonstance, Amalric, allumer le feu follet. Popopop, en ce 8 septembre, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Mathieu Amalric.
Bonjour Antoine.
Bienvenue dans Popopop. Moi ce que j'aime bien dans le feu follet, c'est son mystère, son côté magique et surnaturel, inquiétant aussi parfois.
Oh, évidemment vous dites feu follet, ça me rappelle, je crois, le film qui m'a donné envie de réaliser des films, le film de Louis Malle avec Maurice René, Le feu follet.
Et vous trouvez que ça vous colle bien, ça, le feu follet?
Oh, je prends, j'adore. Prenez. Ah ouais.
C'est pas trop inflammable?
Ah si.
Si.
Après, on aime beaucoup quand même passer des après-midi juste au lit et rêver, voilà.
Mathieu, même si le métier d'acteur vous est tombé dessus par hasard, quand on croit au hasard bien sûr, le fait est qu'aujourd'hui vous lui vouez une telle passion que vous ne pourriez jamais envisager de l'abandonner. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le métier d'acteur?
Acteur?
Ouais.
Eh bien, c'est des amis, des gens que vous admirez qui ont envie de vous embarquer dans leur monde.
Ouais.
Et du coup, je voyais pas le monde comme ça. Je suis avec Arnaud Desplechin, je me dis, mais c'est vrai, en fait on a des grandes vies, on pense qu'on vit des petites choses, c'est pas vrai, tous les jours on vit des drames shakespeariens, des choix. Je suis avec les Larieux, je chante, je danse, j'aime la vie, en crever, voilà, tout, voilà.
Ça veut dire que le jeu vous a réconcilié avec le monde ou vous donnez simplement un plaisir à être dans ce monde?
Oui, c'est une bulle quand même, parce que vous l'avez dit, mais il se trouve que moi j'ai commencé à 17 ans sur les plateaux, j'étais stagiaire, assistant de Louis Malle justement, à cause du feu follet, je voulais bosser avec ce mec, donc c'était au revoir les enfants, et puis voilà, j'étais assistant monteur quand c'était de la pellicule, je faisais tous les boulots, mes courts-métrages, et puis j'ai commencé à 17 ans, donc arrivé à 30 ans, c'est du Luberlu qui me dit, viens, tu peux peut-être jouer. Dans Comment je me suis disputé, je l'avais jamais fait, mais c'est quand même un autre métier manuel du cinéma, pour moi.
Un autre métier manuel du cinéma, non, je vous suis absolument.
Non mais c'est...
Vraiment, tout à fait. D'ailleurs Mathieu, vous précisez que vous n'êtes pas un acteur, mais que vous faites l'acteur.
Ben c'est ça, c'est parce que ma vie s'est passée comme ça.
Ouais.
J'ai appris un peu tous les boulots, j'ai raté les écoles, et puis après, acteur, je fais avec ce que j'ai, je sais pas le faire, donc je travaille beaucoup, et pour arriver à un état d'abandon.
Voilà, qui va donner confiance à quelques jeunes auditeurs, j'ai l'impression. Ouais. Bon, je vais commencer cette émission en vous remerciant, Mathieu Amalric. Dans Serre-moi fort, la musique occupe une place énorme. Il y a beaucoup de pianos, celui notamment sublime de Martha Argerich, j'arrive jamais à le prononcer, mais aussi une chanson d'un artiste que je vénère et qu'on entend trop rarement au cinéma, c'est J.J. Cale. Merci donc, et racontez-moi, dites-moi deux mots de ce choix avant qu'on écoute cette chanson.
Là, vous pouvez remercier Vicky, c'est dans la scène des crêpes le matin, quand elle peut lui souffler des choses à l'oreille.
Ouais.
Vicky pouvait à ce moment-là improviser, et c'est ça qu'elle a chanté. Ouais. Et du coup, je lui ai dit 6 mois plus tard, tiens, chante cette chanson-là. Et c'est pour ça qu'après, elle est au générique. C'était devenu ce doudou.
Écoutez ça, comme ça démarre bien cette émission. J.J. Kell. Ça, c'est du vrai doudou, ça, J.J. Kell. Ah, et comme je dis toujours, une journée sans J.J. Kell, journée foutue. Nous allons parler avec Charline Roux de Serre-moi fort, votre nouveau film, Mathieu Amalric. Mais d'abord, on ne m'empêchera pas de remarquer que vous êtes à nouveau sur tous les fronts. D'abord, on a revu votre bonnet de bain dimanche soir dans Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Oui, 4 millions de téléspectateurs ont pu admirer votre plastique. Mm-hmm. Bon souvenir.
Ah oui, vraiment. Gilles, ça ressemble à Gilles, ce film. Ouais.
Vous serez bientôt à l'affiche de The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson, deuxième expérience avec Wes Anderson, après The Grand Budapest Hotel, ça c'était en 2014.
Et des voix. Des voix, Fox, bien sûr, avec Isabelle Huppert et tout ça.
Lille. Vous avez retrouvé les mêmes sensations?
Ah oui. Oui. En plus, il faut imaginer un atelier de décor avec 400 personnes qui sont en train de construire des décors juste pour un plan qui disparaît dès le soir. Et puis, il y en a un autre qui vient, un bateau, un hôtel, une maison. Ah ! Et quand vous arrivez sur un tournage de Wes Anderson, vous savez quand vous arrivez, mais vous savez pas quand vous allez repartir, ouais, parce qu'il invente d'autres trucs. Ah ! Donc, il faut mieux prévoir du temps.
Et d'ailleurs, vous avez dit que vous ne vous sentez pas acteur sur le plateau, mais plutôt marionnette.
Lui peut jouer comme ça au marionnettiste, mais il devient totalement sauvage au moment de la prise. Mm-hmm. Il vous parle, il vit d'un magasin de 35 mm, il faut bien voir que c'est filmé en pellicule. Ouais. Et blablabla, tu le fais 20 fois de suite, tu remets les accessoires en place, et c'est ça qui crée cette espèce de vitesse de sauvagerie, mm-hmm, dans le jeu.
The French Dispatch, ça arrive très bientôt, le nouveau Wes Anderson. Et puis vous serez aussi dans Tralala, nouveau film des frères Larrieux, que vous retrouvez pour la troisième fois.
Oh, plus que ça.
Plus que ça?
Oh là là.
Ah, mais j'en ai compté trois.
Ouais, il y a les courts-métrages, non, il y en a plus.
Trois longs.
Ah, je sais pas, mais enfin, pour moi, c'est.
Bon, on ne les compte plus.
De ma vie.
Comédie musicale, et là, on va découvrir le Amalric chanteur.
Oui, enfin.
On
découvre
chanteur,
tout le monde, oui. Chanteur. Oui. Mélanie Thierry, Josiane Balasco, bon, Bertrand Belin, c'est un chanteur. Il y a les chanteurs et les acteurs. Mmh. Et il y a les chanteurs qui devaient jouer et les acteurs qui devaient chanter. Et vous allez voir avec des compositeurs d'aujourd'hui, français, enfin, d'Étienne Dao, Philippe Catherine, Karen Anne, Jean Chéral.
Philippe Catherine qui a fait la musique, je crois, du film.
Il a fait une partie. Chaque personnage avait un peu son compositeur.
D'accord, vous chantez, vous, naturellement, dans la vie?
C'est-à-dire que je vis avec une chanteuse d'opéra à la maison, Barbara Hannigan, voyez?
Oui, très bien.
Donc, elle me donne des cours de chant. J'aime bien.
Quel argument faut-il déployer pour vous faire chanter, par exemple? Tout bien, tout honneur, bien entendu, monsieur.
L'amour.
L'amour vous fait chanter?
M'aimer, oui.
Si on vous aime, vous chantez?
Oui.
Mais si je vous dis que je vous aime, vous allez me chanter quelque chose?
T'es vraiment un porc. Non. Là, qu'est-ce que tu veux que je te chante?
Non, serre-moi fort. Serre-moi fort, ce n'est pas un message. Mais c'est le titre de votre nouveau film, Mathieu Amalric, dont nous allons parler dans un instant avec Charlene Roux, qui va nous rejoindre juste après Too Good. C'est un nouveau morceau de ma chouchou, Arlo Parks. Écoutez-moi ça.
Touch the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show. To pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over.
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charlene Hall. Car c'est d'ailleurs sur le son de cette poétesse et chanteuse britannique que Charlene Roux vient de faire son entrée.
C'est comme ça qu'on prononce mon nom maintenant. Bonjour.
Bonjour Charlene, Charlene Mathieu, Mathieu.
Charlene. Bonjour.
Charlene, serre-moi fort. Le film de Mathieu Amalric semble être une histoire, l'histoire d'une femme qui s'en va. Enfin, si on en croit le synopsis, mais tout est dans le semble, n'est-ce pas?
Et en même temps, c'est le meilleur résumé possible. D'un côté, cette femme qui semble s'être échappée de sa famille. De l'autre, la dite famille qui évolue sans elle. Et je n'en dévoilerai pas plus, même sous la menace. Le tout est adapté d'une pièce de 2003 de Claudine Galéa. Je reviens de loin. Une pièce dont la lecture, Mathieu Amalric, vous a mis dans un état second.
J'ai pleuré.
Et ça vous était pas arrivé depuis longtemps?
Bah quand même, pleurer comme un veau dans un train, obligé de se planquer sous une veste, et tout d'un coup sentir le plaisir des larmes en même temps, c'est très ambigu. Oh, donc le mélo, je sais pas, le mélo, voilà.
Ça vous a pris au trip directement?
Et comme elle avait jamais été jouée cette pièce, voilà.
Vous êtes un garçon très émotif, Mathieu.
Oui.
Ah oui, non, c'est pas du tout un défaut.
Non,
immense qualité.
Pas du tout.
Bah surtout quand on fait ce métier, j'imagine. Et pourquoi d'ailleurs être passé de « Je reviens de loin » à « Serre-moi fort » ?
Quand je voyais, j'écoute « Je reviens de loin », je pensais à quelque chose, un trajet plus sociologique. Ça ne m'amenait pas à quelque chose d'une histoire d'amour. Mais je tiens à dire que « Serre-moi fort » était là avant le Covid. C'est pas le distributeur qui m'a dit... Ce serait bien comme titre.
Et il lui survivra, je vous promets. Ce qui est étrange, c'est que ce texte vous est parvenu via l'acteur Laurent Zisserman, un vieux copain de coloc qui, ayant dépassé l'âge de postuler au conservatoire, avait emprunté votre identité.
Ah, vous savez ça.
Mais oui, pour passer le concours. Ça, en fait, c'est donc l'autre Mathieu Amalric qui vous a mis sur la voie du texte. Est-ce que vous voulez qu'on en parle un instant?
Ah oui, il y a de quoi dire.
Oui. Laurent, je vous écoute.
Laurent n'a pas pu monter ce texte. Et c'est vrai qu'il me l'a passé comme un
adieu. Oui, c'est ça, il avait l'ambition de le monter au théâtre.
Oui. Il avait rencontré Claudine, ils étaient très proches. Oui, c'était en 2017-2018. Et voilà.
C'est quand même très drôle que le type qui a emprunté votre identité vous fait finalement passer un texte que vous allez transformer en film de cinéma. C'est déjà très, très romanesque tout ça.
Oui. Et puis Laurent jouait dans mes premiers courts-métrages.
Il y a un film à faire sur le film.
Il a l'air tout à fait d'accord. Serre-moi fort, c'est un titre choisi avant l'apparition des gestes barrières, comme vous le rappeliez à l'instant, avec un écho à la pop culture et à ce titre d'Étienne Dao. Serre-moi fort, si ton corps se fait plus léger, nous pourrons remonter.
Et qui devient à la fin, parce que les chansons de Étienne Dao sont riches, serre-moi fort, si ton cœur se fait plus léger, je pourrai me sauver. Et longtemps on a hésité entre les deux. Une douleur, un moment, on veut qu'elle s'en aille. Serre-moi fort. Mais bon, voilà. Finalement, c'est le premier degré qui... Il ne pouvait pas y avoir de moins dans ce film.
Et ça résume incroyablement bien ce film.
Il devait se rencontrer dans la scène du flashback de la discothèque sur la nage indienne. Il devait danser là-dessus. Vicky Cripps et Harry Votralter.
Oui, Vicky qui est votre héroïne. Cette actrice absolument incroyable. Oui. Ce qu'on avait vu. Qu'on avait vu où?
Dans le Paul Thomas Anderson.
Ah, dans le poste, exactement.
Et cet été dans Old, de M. Night Shyamalan.
Voilà, et dans le film de Mia Hansen Love aussi.
Exactement.
Quand un matériau littéraire vous met dans un tel état, comment est-ce qu'on s'y prend pour l'adapter, pour mettre en image un ressenti? Puisque vous parlez de mots tremplins qui ont jalonné l'écriture. Des mots tels que incantation, présumé, projeté, croire, prolonger, transrite. Pas les plus simples à visualiser.
Oh, quand même, on fait tout ça. On ferme les yeux et quelque chose apparaît.
Vous avez bien de la chance.
Non? Vous imaginez pas des choses? Je sais pas. Le cerveau est quand même hallucinant. On fait quatre trucs à la fois en même temps. C'est très simple. J'ai eu la chance d'être premier assistant. C'est OK. Qu'est-ce qu'il y a à l'image? Qu'est-ce qu'il y a au son? Avec ça, tu peux aller très loin. Voilà, tu transformes n'importe quoi. Tu peux transformer, votre programme, là, que vous avez devant les yeux. Je vais essayer d'en faire un film. OK, qu'est-ce qu'il y a à l'image? Qu'est-ce qu'il y a au son? et tu t'enfermes dans une pièce noire, comme le faisait Alain Resnais, qui se projetait le film tout seul. Faut pas oublier qu'Alain Resnais n'écrivait jamais ses scénarios. Il partait d'un texte existant et il essayait de visualiser et d'entendre le film. Et c'est un exercice de méditation très difficile. Tu peux pas aller jusqu'au bout. Donc tu recommences à zéro. Et puis autre chose vient. Et voilà. Et c'est vrai, c'est vraiment un rituel.
Mais votre émotion initiale à retranscrire, est-ce que c'était si facile, l'émotion de la première lecture?
Ah oui, quand t'es tout seul et que tu écris, tu pleures. Ça, c'est facile. Ce qui est très difficile, c'est le plateau, où il y a beaucoup, beaucoup de contraintes techniques, où il faut se créer une troupe pour pouvoir être tous en train d'être dans cette... Donc, ce que j'ai trouvé, moi, c'est de tout réécrire dans la nuit et de donner à toute l'équipe un texte que le matin. Comme ça, ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans la merde avec moi et voilà, et là je leur écris comme une lettre.
Un petit
Alexandre Astier, mais ça crée une cohésion. Ouais,
bien sûr, mais vous êtes parti d'un matériau premier qui était donc cette pièce de théâtre et que vous avez vu en film.
Non, pas tout de suite. Après, ces larmes dans le train, non, je me suis pas dit, oh là, il y a un film. Pas du tout. C'est après 2, 3, 4 mois que soudain, enfin non, je voyais bien que c'était ça qui persistait. Et quand Laetitia et Yaël, les productrices des Poissons, avec qui on travaille depuis toujours, et m'ont dit, bon, ben, qu'est-ce que t'as en magasin? Je sais rien, je sais pas. Ouf, je sais pas. J'ai ça. Peut-être. Tiens, ben, lisez. Et elles ont pleuré. Et on dit, mais alors là, je sais pas où tu vas trouver du cinéma là-dedans. Ouais, je sais pas, peut-être. Et je me suis enfermé dans une maison en Bretagne, et voilà. Et ça a commencé, et c'est parce que Vicky est arrivée comme Jeanne d'Arc. Enfin, c'était moi, Jeanne d'Arc.
Quand on est les voix.
Et Mathieu Amalric est bien décidé à nous faire pleurer avec Serre-moi fort. Et en son, ça donne ça.
J'ai envie de voir la mer.
Quand on part faire un voyage, ça prend du temps.
Ça prend du temps.
Il faut aller loin, très loin.
Il faut aller loin, très loin.
Maintenant, je suis partie une semaine, puis 6 mois, et puis elle sera tombée.
T'as foutu le camp, d'accord.
C'est pas moi qui suis partie.
Non,
Et Mathieu Amalric qui écoute la bande-annonce de son film Serre-moi fort en disant c'est beau le cinéma à la radio.
Ah oui, c'est vrai.
L'envie de partir, c'est un sentiment, je crois, assez unanimement partagé. J'imagine qu'on l'a tous éprouvé. Pour un réalisateur, c'est aussi une belle perspective de road movie. Est-ce qu'il y avait cette ambition-là aussi dans votre récit?
Oui. Commencer par quelque chose de partageable, oui. Et c'est là où Claudine a trouvé ce truc. On a tous eu envie de partir, on l'a tous imaginé un jour. On sait très bien qu'il y a la porte là-bas qui grince. Donc comment je vais faire? Je partirai par l'autre, la carte bleue, le portable. Je vais le laisser. Bon voilà, on l'a fait. On en a envie. Et une voiture, allons-y. Mon problème, c'était de trouver une voiture que j'avais envie de filmer. Et je me dis, ça ira, puisque c'est pas moi qui fais le film. En fait, celle qui projette... La projectionniste, la monteuse, c'est le personnage de Clarisse. Donc, elle se délire. Un road movie. Ouais.
Mais Mathieu, ce dont vous parlez là, c'est un départ ou c'est une fuite?
C'est une fuite. C'est une fuite. Une fuite d'une chose insoutenable. Et de toute façon, sincèrement, une rupture amoureuse ou la perte d'un être cher... ça réveille exactement la même bombe à fragmentation, l'espace, le temps, le délire dont on a besoin pour continuer à mettre un pied devant l'autre. C'est la même chose.
Et encore une fois, sans trop en dire, on peut quand même expliquer
parce qu'on peut
que...
pas tout dire.
Bah non.
C'est ça le problème.
On peut pas tout dire, mais c'est pas un film qui marche sur le secret non plus.
Non,
c'est pas M. Night Shyamalan, d'accord.
Mais il n'y a pas une révélation finale.
On peut quand même expliquer que dans le film, il y a deux narrations parallèle, comment est-ce que vous les avez articulés?
Eh bien, en mettant tout à plat, pour l'équipe, pour tout le monde, j'ai fait un résumé dans l'ordre chronologique. En fait, l'histoire commence en hiver. Et on attend le printemps. Elle doit attendre le printemps. C'est pas plus compliqué que ça. C'est et malheureusement, les gens mettent ça en ordre après coup, lorsqu'ils sont seuls comme des chiens, qu'elle a arrêté son imagination et que c'est insoutenable.
Voilà.
Revenons à l'imagination, je vous en supplie.
D'où cette construction, quand même extrêmement sophistiquée, labyrinthique, et que vous avez en plus monté en, dans des temps séparés. Vous êtes revenu 3 fois au montage. Donc il y a une écriture très particulière à ce film. On est d'accord.
C'est-à-dire que l'histoire nous obligeait à avoir et la neige, et le dégel de la montagne. Donc, du coup, et ça, j'aime beaucoup ça, tourner en plusieurs fois. On a commencé, en mai 2019. Ouais. Et ensuite, avec François Gédigier, un monteur absolument sensoriel, on monte ce qu'on a tourné. Et on peut réagir comme un spectateur. Et on se rend compte qu'on n'a peut-être pas envie que d'une Mater Dolorosa, un chemin de croix. Et du coup, le tournage de novembre 2019 peut attraper ses couleurs. Et on crée, par exemple, Elle seule dans la cuisine.
Sans effet de style. D'accord.
Un montage sensuel.
On parle avec Mathieu Amalric de son nouveau film « Serre-moi fort ». On continue à parler dans un instant. Mais pour l'instant, il est 16h30 et c'est l'heure des Pop News.
Et voici un livre à mettre entre toutes les mains, le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, un ouvrage dont on apprend en l'ouvrant que son titre complet était « Le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, c'est aussi pour les adultes, les tontons racistes et toutes les personnes qui souhaitent comprendre le racisme et qui veulent éviter de perpétuer des préjugés parce que c'est pas cool le racisme ». Fin de citation. Un livre drôlement chouette, signé Rakid, que j'ai immédiatement mis entre les mains de l'experte de ma maison.
J'ai adoré ce livre car il nous explique des choses pas si faciles à comprendre de manière pédagogique et très drôle. Par exemple, on parle souvent de race et j'ai appris la différence entre la race sociale et la race biologique. La race biologique, c'est une seule race pour tous les humains et la race sociale, c'est une construction sociale basée sur une domination. La couleur de peau, l'origine, la langue, etc. Une fois expliqué, c'est pas si compliqué.
Bah oui, une fois expliqué, c'est si compliqué.
Bravo Juliette.
Le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, de Rakid, c'est extrêmement conseillé. C'est aux éditions Lapin, c'est déjà en pré-vente. Sinon, rendez-vous vendredi dans les librairies.
14 ans après leur première collaboration, Robert Plant, voix historique de Led Zeppelin, et Alison Krauss, chanteuse et violoniste de Bluegrass, sont de retour pour un nouvel album, Raise the Roof, produit par T-Bone Burnett, et même qu'ils ont déjà dévoilé leur version du classique de Lucinda Williams, Can't Let Go. I'm like a fish out of water and a kid in a tree. You don't even want to talk to me. Well, it's over. Raise the Roof, l'album de Robert Plant et Alison Krauss sortira le 19 novembre.
Le couple que forment Raph, Valeria Bruni-Tedeschi et Julie Marina Foïs bat de l'aile si on en juge à leurs échanges amoureux.
Comment tu fais pour aussi bien dormir ?
Arrête !
T'as eu mon texto ?
C'est 5h42, 5h46 ou 5h48 ?
J'ai besoin de parler, moi.
Parler ?
Monstre, pute,
salope. Je crois que t'as le syndrome de la Tourette.
Tu veux pas qu'on se réconcilie ?
Non.
Tu crois vraiment qu'il y a plus rien à sauver entre nous ?
Et suite à cet échange, Raph, Chu et Vin, la fracture, c'est le titre du film de Catherine Corsini qui emmène Raph et Julie dans un service d'urgence proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets jaunes où elles vont le rencontrer, lui.
On peut avoir un peu de soupe, s'il vous
plaît ? Non, c'est pas possible, monsieur.
Il y a Macron qui va parler, j'ai envie de l'entendre, c'est tout.
Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron ! Vous n'êtes pas non plus un martyr.
Je ne suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous, qu'on me tire dessus ?
Yann Piomarmaï, manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. La fracture, ce sera dans les cinémas le 27 octobre.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Aaron Smith.
Robert Plant.
Mais oui, bien sûr. Ouais. C'est trop facile.
Non, mais c'était bien. C'était bien. C'était très bien imité.
Merci, Charline. Bien. Revenons non pas à nos moutons, mais à Serre-moi fort, le nouveau film de Mathieu Amalric qui est sorti aujourd'hui, car nous sommes mercredi. Je vous cite, c'est toujours assez chouette de prendre une matière qui n'est pas faite pour un film, car vous devez en extirper ce qui justement ne pourrait pas être autre chose qu'un film. Et on a l'impression, Mathieu, quand on vous entend dire ça, que vous parlez d'une transsubstantiation, d'un procédé alchimique. Quel a été le déclic qui a transformé la pièce, qui était une pièce de théâtre, en film, dans votre tête ? À quel moment ça a basculé ?
Les larmes, donc, un genre, le mélo, qui pouvait, par l'inversion qu'avait inventé Claudine, s'approcher peut-être du film de fantôme.
Des fameux films de fantômes.
Et voilà. Et du coup, et le road movie, et les gens de la pluie de Coppola. Et après, ben, c'était parti. Oui, voilà. Partageable. Et après, évidemment, cette histoire de que ça puisse pas être autre chose qu'un film, c'est l'amour de son outil, non?
Vive les larmes.
Et puisqu'on parle de fantômes, il y a dans votre film la comédienne, celle qui joue cette femme qui semble partir, Vicky Krieps, vue cet été, on le disait, dans Old ou dans Phantom Thread, une actrice qui vous est apparue comme une évidence, au sens propre comme au figuré. Comment est-ce qu'elle s'est imposée à vous? Vous avez parlé de Jeanne d'Arc tout à l'heure, maintenant il faut tout nous dire.
Mais non, mais j'étais...
Jeanne d'Arc, c'est puissant comme évocation.
Non, mais c'était moi, Jeanne d'Arc.
Ouais, j'ai eu,
elle m'a visité. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas trouvé d'autres mots que ça, elle m'a visité. J'étais en Bretagne, dans une maison vide, avec une table, j'écrivais depuis... disséquer le texte de Claudine, à faire une liste des objets comme un archéologue et soudain m'est revenu, je crois, tout simplement le plan dans Phantom Thread, le premier plan du personnage que joue Vicky, où Daniel Day-Lewis est dans un restaurant, il veut un petit déjeuner et on voit elle sortir par la porte de la cuisine comme une serveuse. J'ai un faible pour les serveuses. Les serveuses,
les
vous pouvez projeter des vies entières le temps d'une de débarrasser une table, si vous voulez. Et c'est ce qu'elle fait. C'est pas l'apparition d'une actrice dans Phantom Thread quand Vicky. C'est comme les passantes de Brassens. C'est on sait toujours. Je la connais. On se connaît. Et ça s'est vérifié.
Oui, parce que vous parlez, vous parlez de Serre-moi fort, enfin tous les deux, comme de votre film.
Oui, c'est notre film. On se moquait beaucoup de nous sur le plateau parce que on était souvent habillés. Enfin, on nous appelait les jumeaux.
Bon, Mathieu Valric, vous le savez, ici nous parlons de pop culture et pour la préparation de ce film, vous vous êtes nourri de celle-ci. En vous replongeant dans des mélodrames comme Broken Flowers de Jim Jarmusch avec Bill Murray, des séries comme The Leftovers, mais aussi des choses plus étonnantes comme les films Là-haut et Coco de Pixar. Racontez-moi un peu cette salade.
Mais vous pleurez pas Là-haut?
Je pleure tout le temps, moi.
Bah, l'intro c'est une des plus belles choses qu'on ait jamais vues au cinéma. L'intro de Là-haut, si vous ne pleurez pas, c'est qu'il se passe un truc...
C'est extraordinaire. 8 minutes de vie. Et tout ce qu'il n'a pas pu faire avec elle. Et donc c'est parti. C'est extraordinaire. Et Coco, c'est parce que c'est le Mexique. Donc c'est la relation aux morts qui est totalement naturelle. On est avec les morts et puis voilà.
Et The Leftovers?
Oh, c'est extraordinaire.
Ouais. Mais en quoi est-ce que vous, ça vous a inspiré pour ce film-là?
Souvenez-vous.
Oui, je vois très bien. Mais
2% de la population disparaît d'un coup, plof.
Que se passe-t-il avec ceux qui restent?
Et voilà. Et quand je me souviens de ce personnage féminin qui va faire des courses et qui remplace le lait périmé dans le frigo par du nouveau lait, alors qu'elle a perdu... elle a vraiment pas eu de chance. Son mari et ses deux enfants ont disparu.
Elle a disparu.
C'est aussi le trivial. Le côté hyper réaliste, un truc ultra quotidien. Et ça, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas séparer le réel et la projection.
Et alors vous qui êtes cinéaste et cinéphile, quels sont pour vous les principaux écueils du genre mélo?
Je suis pas si cinéphile que ça.
Quand même.
J'ai plus le temps.
Plus que nous.
Mais le mélo, il faut... Vraiment, pas mentir. C'est tout.
Tu peux C'est-à-dire, oui, c'est ça, il y a une sincérité absolue.
Sinon, ça se sent.
Et pas d'ironie.
Pas d'ironie, pas de marchandise, voilà, et puis, oui. Ça n'a rien à voir avec la pudeur ou l'impudeur, ou montrer ou pas montrer. Ça, je pense que on peut montrer tout. C'est vraiment le nerf qui fait que t'en as besoin.
Ça veut dire que vous avez l'intégrale Douglas Sirk sur votre table de nuit?
Oui.
Donc vous pleurez tous les soirs?
Je les regarde assez rarement. Ouais. Là, je les ai regardés. Il y en a d'ailleurs, le titre, Le Mirage de la Vie, Imitation of Life. Ouais. Ça aurait pu être le titre de ce film.
Absolument, ça aurait pu être le titre, tout à fait.
La dernière fois que vous avez pleuré au cinéma, c'était quand et pour quel film ?
Oh là, non, fallait me le demander avant parce que je ne sais pas convoquer ma mémoire. Ah. J'ai la chance d'avoir une mémoire de poisson rouge, donc tout m'émerveille à nouveau. Mais je pleure.
C'est pas un piège, vous avez le temps de...
Non, ben, quand ça reviendra...
Je vous pose une autre question entre-temps, parce que le point commun de toutes les références pop que nous citions à l'instant, c'était de vérifier une chose, c'est l'intuition immédiate que vous aviez eue de traiter le faux, le vrai, le délire et le réel sur le même plan, sans les séparer esthétiquement, sans couture, pour reprendre votre expression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un seul coup dans le sépia, parce qu'on évoque le passé.
Ouais.
Tout est sur le même plan, je dirais.
Ouais.
Ouais.
Oui, et puis...
Mais c'est très culotté, ça, d'un point de vue stylistique.
Oui, tu peux te dire c'est culotté, mais comme je tourne avec une troupe... Quand je parle à Christophe Bocarn, qui est, oui, chef opérateur, mais qui est surtout un homme de récit, un homme charnel, qui va filmer les hommes et les femmes avec sa peau, et on peut partager ça, et ça lui paraît évident, c'est-à-dire non, évidemment, on va pas mettre des filtres pour bien expliquer que, à ce moment-là, c'est vrai, et que là, c'est faux. Non, faut pas. Ça me semblait ressembler aussi au moment où on est totalement fracassé par une horreur et que là, alors là,
tout explose.
Ce que je disais tout à l'heure. Quoi.
On parlait de mélo, hein, du genre mélodramatique qui est un genre magnifique en soi. Est-ce que Serre-moi fort, ça peut aussi être vu comme un exercice ultime de résilience ?
C'est peut-être plutôt une boîte à outils.
Ouais.
Comme là, depuis 12 jours, en fait, je vais de ville en ville, partout en France. J'ai besoin de ça, parce que le cinéma, on est tout seul. Il n'y a pas de public, il y a la machine qui fait tourner un film, on n'est pas là. Donc j'ai besoin de rencontrer les spectateurs après, de parler avec eux, le débat, et puis après de continuer jusqu'à 4h du matin, jusqu'au café. Et là, sincèrement, beaucoup de personnes me disaient, mais j'avais pas pensé à ça. Mais je vais faire comme elle. Elle a raison. Elle a raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc c'est plutôt ça.
Et qu'est devenu le petit carnet à noter, en préambule duquel est écrit, ouvrez les guillemets, si vous trouvez ce cahier, appelez-moi ce numéro de téléphone, merci terriblement.
Ah oui,
votre carnet de travail.
Ah, je les ai pas perdus. Je les ai.
C'est votre manière de travailler habituelle ? Toujours petit carnet, toujours le même préambule, toujours.
Oui, avec une première page vierge.
Avec des formules secrètes et magiques quand même, parce que si un autre réalisateur tombe sur le carnet, il ne va pas pour autant faire le film.
Mais non, mais c'est vraiment, ça ressemble plus à un travail de rumination de vache, où vous êtes tout le temps en train de, pour essayer en spirale que quelque chose de... soit nécessaire. Oui.
Serre-moi fort, c'est le titre du nouveau film de Mathieu Amalric dont nous parlons aujourd'hui dans Pop Pop Pop. Et dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons continuer à parler ensemble de pop culture. Vous aurez retrouvé entre-temps le film, l'un des films qui vous a fait pleurer, Mathieu. Juste après, un petit morceau qui va métamorphoser la Charline qui est assise en face de vous. C'est Fake Tales of San Francisco. C'est un morceau signé Arctic Monkeys. Regardez ce qui va se passer. Musique.
So all that's left is the proof. that love's not only blind but deaf.
Charline Roux, méconnaissable après le morceau des...
Transfiguré.
Transfiguré.
Tout à fait.
Vraiment, comme tout s'était éveillé, on avait allumé une cathédrale. Ouais. Bon. Arctic Monkeys, Fake Tales of San Francisco, c'était en 2006 sur l'album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.
Un titre sympa.
C'est long comme titre. Ouais. Et vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
Écoute ça, petite fille. Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée.
Et ce son, c'est un extrait de Pierrot le Fou, bien sûr, avec Jean-Paul Belmondo. Et c'est ce qui vous évoque la pop culture, Mathieu Amalric.
Ah, c'est que ces deux gars se sont rencontrés. C'est beau, non?
Ouais, ouais, c'est beau. Ça vous fait quel effet, d'ailleurs, quand on parle de vous? C'est Noël Simsolo qui disait ça, qui disait que vous étiez l'héritier de la...
Non, mais c'est absurde. Et puis quand même Belmondo dans une baignoire, parce que là il a un cigare et il lit du Elifort, en fait. Et après il a mis Piccoli dans une baignoire en train de lire autre chose, enfin je sais pas.
Demain, nous rendrons hommage à notre manière au magnifique, de 16h à 16h20, avant de passer le relais à la rédaction de France Inter, avec qui vous pourrez suivre l'hommage national en direct. Un hommage national pour le roi des saltimbanques. Est-ce que ça vous émeut, ça, Mathieu?
Je vous ai même pas écouté. Tu vois, j'ai entendu un truc officiel.
Il y a un hommage national demain aux Invalides, pour Jean-Paul Belmondo.
Non, je me le fais nationalement, seul. Je crois que chacun se le fait nationalement seul. Bon, qu'est-ce que vous voulez, ils sont bien obligés là, c'est le minimum.
Et avant ça, Mathieu, nous vous aimons, vous, mais vous, qui aimez-vous? C'est la réponse que vous allez nous apporter avec votre pop list. Un livre, un film, une musique, une série, voilà sur quoi mon enquête devrait déboucher. Pour le livre, vous avez choisi L'homme sans qualité, Der Mann ohne Eingeschlafen, en VO, roman inachevé de l'écrivain autrichien Robert Musil, dont le premier tome a été publié en 1930. Charline, un roman d'une ambition folle qui s'étale sur 4 décennies et que vous allez devoir nous résumer en quelques mots.
Et merci du cadeau. L'homme en question, c'est Ulrich Oisif, mathématicien, qui a 32 ans au moment des faits. On est à Vienne en 1913 et il se met à fréquenter un groupe d'intellectuels, d'entrepreneurs, de hauts fonctionnaires réunis en salon au sein duquel s'organise l'action parallèle, dont le but est de trouver la grande idée qui permettra de célébrer le jubilé de l'empereur de Kakhanie. Et quand j'ai dit ça, je n'ai rien dit.
Oui,
si, ça me semble assez clair. C'est un livre que vous ne quittez jamais, Mathieu.
Voilà,
je vois l'exemplaire que j'ai sous les yeux qui est absolument démonté.
Oui, et encore, je ne vous ai pas amené le deuxième tome avec tous les inédits. Non, mais ce que j'aimais dans votre liste, c'est qu'il y avait écrit le livre du moment. C'est ça que j'aime bien dans votre idée. C'est le truc qui te traverse la tête.
Ouais.
Et j'en ai bien cherché un autre. Et non, c'était celui-là. C'est toujours celui-là.
Alors,
et maintenant, il m'apparaît, je peux pas vous dire. Je regarde beaucoup de films de Jerry Lewis.
Ouais.
Je redécouvre le Zinzin d'Hollywood, le Bellboy, c'est juste génial.
Bien sûr, le dingue du palace.
Ouais. Et pourquoi Jerry Lewis me fait maintenant relire Musil avec des éclats de rire? Je ne vois plus que du drôle.
Vous nous en lisez quelques lignes pour le plaisir?
Oui, très très peu. Très très peu, parce que... Alors, chapitre 4, page 19. S'il y a un sens du réel, il doit bien y avoir aussi un sens du possible. Quand on veut enfoncer les portes ouvertes avec succès, il ne faut pas oublier qu'elles ont un solide chambranle. Ce principe, d'après lequel son père avait toujours vécu, n'est pas autre chose qu'une exigence du sens du réel. Mais s'il y a un sens du réel, et personne ne doutera qu'il ait son droit à l'existence, il doit bien y avoir quelque chose que l'on pourrait appeler le sens du possible. L'homme qui en est doué, par exemple, ne dira pas « ici c'est produite, va se produire, doit se produire telle ou telle chose », mais il imaginera « ici pourrait, devrait se produire telle ou telle chose ». Et quand on lui dit qu'une chose, qu'elle est comme elle est, il pense qu'elle pourrait aussi bien être autre. Ainsi pourrait-on définir simplement le sens du possible comme la faculté de penser tout ce qui pourrait être aussi bien et de ne pas accorder plus d'importance à ce qui est qu'à ce qui n'est pas.
Merci, Mathieu.
Voilà. Et à partir de là, tu peux délirer.
De l'homme sans qualité de Robert Musil, votre livre. Qui chante là-bas? Alors, c'est pas une question que je me pose, mais le film que vous avez choisi, Mathieu, c'est un film de Slobodan Sijan, Charline. Qui chante là-bas? Je ne sais pas, mais qui parle ici, c'est vous, et on vous écoute.
Yougoslavie 1941, un apprenti chanteur, un tuberculeux, un chasseur, un notable, un ancien combattant, deux musiciens tziganes attendent l'arrivée d'un car qui doit les emmener à Belgrade, et c'est parti pour le voyage.
Puška je zakočena.
Extrait de Qui chante là-bas, un film de Slobodan Sijan que vous avez choisi, Mathieu Amalric. Je vous le confesse, je n'ai pas vu ce film, donnez-moi envie de le voir ce soir.
Oh là là, ben écoutez, c'est grâce au travail de tous ces éditeurs de DVD, et là c'est Malavida, ils font un boulot fou, c'est Emmanuel DeVos aussi qui m'en a parlé, et je ne l'avais jamais vu, je l'ai vu en DVD. Il y a le monde entier là-dedans, et ça se passe sur une journée, juste avant l'invasion
des Allemands.
Et il y a toute la cruauté, l'humour, la chaleur humaine dans un bus, juste le temps d'un voyage, et avec deux gitans, vous verrez qu'ils sont comme un cœur antique. C'est absolument sublime.
Je m'y colle ce soir. Qui chante là-bas, le film de Slobodan Sijan. Terminons cette pop-list avec le morceau que vous avez choisi, puisque vous ne regardez pas de série. Et c'est tout à votre honneur.
J'ai pas le temps, mais vous m'avez dit. Mais oui, la série du moment, pas le temps.
Non, mais ça, j'admets tout à fait. Et ce morceau, c'est Vicky. Tiens, mais ça alors, quel hasard, hein. C'est comme Vicky Krieps, l'actrice de Serre-moi fort. Et c'est du chanteur français Rodolphe Burger. C'est un morceau que vous avez écouté en préparant le film?
Pas du tout. C'est que...
aucun rapport.
Vicky est venue un soir à la maison, et comme je vis en colocation avec Rodolphe Burger et Olivier Cadiot, vers la fin de la soirée, Rodolphe, qui est un homme extrêmement élégant et discret, tout d'un coup dit, oh, j'ai écrit une chanson il y a longtemps qui s'appelle Vicky. Et Vicky a dit, ah bon? Et il lui passe. Et elle est belle, je la connaissais pas.
Et bien, vous savez ce qu'on va faire?
Ouais.
On va l'écouter tout de suite.
Ouais.
Vicky.
Viking girl, Vicky,
Jette-toi à l'eau. Jette-toi à l'eau. Laisse tomber ces barbares. Laisse-les filer sur leurs dracars. Laisse courir ces Visigoths, ces Attila sur leurs vaisseaux. Abandonne-les à la fureur des au-delà qui leur mangent le cœur. Jette à l'eau l'otage de guerre et viens jouer dans ma rivière.
Comment se boucle l'histoire avec cette fameuse Viking dont nous avons parlé.
Oui, autant se servir de la radio pour faire des petits mots doux.
Et Rodolphe Burger, me disiez-vous pendant le disque, qui organise un petit festival?
Ah oui, bah, c'est ça fait des années, ça s'appelle Dans la Vallée, ouais. Qui fait tous les ans. Et là, ça aura lieu le 1er, le 2 et le 3 octobre à Sainte-Marie-aux-Mines. En Alsace.
Et ben voilà l'information qu'elle est passée. Hein, le dernier film qui vous a fait pleurer, Mathieu?
J'ai retrouvé, c'est tout simplement Drive My Car. Et c'est voilà, la dernière scène. Tchekhov est une actrice qui s'exprime par le langage des signes.
Ok, très bien. Merci infiniment.
Non, merci à vous.
Merci Mathieu Amalric. Serre-moi fort, c'est à découvrir dans les salles obscures depuis aujourd'hui. Et oui, c'est un film pop. Merci Charline.
Merci.
Et à demain. Et merci à toute l'équipe de pop et à Victor Ouvrard qui était à la technique aujourd'hui. Demain, c'est un pop tristement spécial que nous vous proposerons avant l'hommage national à notre Jean-Paul Belmondo qui sera à suivre en direct sur cette antenne. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615. Pop.